BFM Radio, midi 15h, le 12-15, Edwige Chevrillon.
Christophe Beau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Monnaie de Paris, alors très très vieille institution qui remonte à 864. Je me demandais même si vous n'avez pas oublié un devant, vous voyez, tellement ça me paraît vieux, non ?
12 siècles d'existence, effectivement, c'est l'une des plus anciennes institutions au monde.
Alors, des plus vieilles institutions au monde, et une institution qui, se, un peu sous votre houlette, se réveille, puisque pour les chiffres 2008 que vous venez de publier, chiffre 2008 montre que vous avez gagné de l'argent, ce qui est un peu une grande première, et puis surtout, on sent bien que c'est devenu presque une entreprise publique et privée. On va revenir là-dessus, mais puisqu'on parlait beaucoup d'art dans le 12-15 aujourd'hui, je ne peux pas résister. Vous avez cette exposition dont on parle beaucoup, de ce photographe américain, photographe un peu trash, pour ne pas dire très trash, David Lachapelle. C'est un succès, c'est incroyable. Le nombre de gens qui connaissent désormais votre institution à cause de David Lachapelle.
Oui, c'est un grand succès. On a à peu près 1000 visiteurs par jour en moyenne. Ce qui nous fait très plaisir, c'est que c'est un public qui n'aurait effectivement pas eu idée de venir à la Monnaie de Paris jusqu'ici. Sont plutôt des jeunes, plutôt des étudiants, et qui découvrent à la fois ce grand artiste contemporain. Alors, j'ai croisé Marc Fumaroli dans votre studio.
Il n'est pas convaincu.
Il n'est pas tout à fait d'accord avec cette définition. Moi, je pense que c'est un grand artiste contemporain parce qu'il a commencé dans la mode, mais ensuite, il a vraiment un propos aujourd'hui qui est une réflexion sur la religion, sur la société de consommation. Et donc, il y a un propos qui est très, très intéressant. Voilà. Et non seulement donc il découvre cet artiste, mais il découvre aussi notre institution, notre bâtiment qui est magnifique et les produits que nous y faisons, les productions d'art que nous y avons encore ici en plein cœur de Paris.
Est-ce que vous allez dans la suite, parce que je crois que ça se termine fin mai, vous allez la prolonger devant le succès, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à venir voir cette exposition ou pas?
Non, je pense pas qu'on va la prolonger. Par contre, on a d'autres projets du même acabit. Au mois de juin, nous allons accueillir une grande installation de Buren dans la cour d'honneur de la Monnaie de Paris, et donc ce sera l'occasion de découvrir cet artiste ou de le redécouvrir.
Redécouvrir parce qu'il est quand même devant les bureaux du ministre de la Culture. Voilà. Et du reste, c'est pas dans les meilleures conditions.
Hein. C'est en travaux en ce moment, donc les gens pourront trouver son œuvre à la Monnaie de Paris en changeant de rive, tout simplement. Et puis à la rentrée de l'automne, nous aurons une exposition d'art premier, comme l'année dernière, dans le cadre de Parcours des Mondes qui associe les galeries d'art du quartier du 6e arrondissement à Paris. Et puis nous aurons également une exposition de photos iraniennes dans le cadre de Photoquai, qui je pense fera aussi parler d'elle, puisque l'Iran est aujourd'hui en plein cœur de l'actualité géopolitique.
Plus classique, donc un peu. Vous reprenez un peu vos esprits après le choc David Lachapelle avec la vieille dame.
Oui, mais en 2010, nous aurons également une grande exposition de photos, j'espère, qui n'est pas encore tout à fait bouclée, mais avec un très grand artiste contemporain également, et je pense que ce sera un très gros au choc aussi pour la vie culturelle parisienne.
C'est une manière de faire changer, c'est intéressant en termes de management, c'est une manière de faire un peu évoluer aussi les mentalités au sein de votre institution qui était avant un établissement public.
Oui, alors c'est devenu un établissement public depuis peu, c'était auparavant une administration
au sens classique. Et passé établissement public.
Voilà, c'est ça. Et effectivement, on a toute une stratégie de modernisation puisque c'est une entreprise qui, comme vous l'avez rappelé, est très ancienne, mais qui aujourd'hui doit être autonome, qui doit gagner de l'argent. Et il y a donc une évolution culturelle à conduire dans cette entreprise.
Et c'est ce que vous avez fait, un peu le parallèle avec l'exposition
voilà, c'est
de David Lachapelle.
Voilà, avec l'exposition. L'exposition, elle préfigure aussi tout un projet d'ouverture du site parisien à l'horizon 2011, où on voudrait montrer nos ateliers, montrer un petit peu le cœur de la bête, entre guillemets, puisque la Monnaie de Paris est connue pour ses produits, mais pas pour la façon
dont...
On frappe la monnaie, on frappe les euros, on frappe aussi des pièces de collection, par exemple les euros en or et en argent que les Français peuvent trouver à la poste. Et qui pourront donc retrouver à partir du mois de juin cette année. Ils se sont rués dessus l'année dernière au mois de septembre.
Vous recommencez cette opération. Est-ce que vous ne redoutez pas d'avoir encore plus de succès que la dernière fois?
On ne le redoute pas, on l'espère. Voilà. Mais je pense que dans ces temps de crise, c'est bien de pouvoir proposer à nos concitoyens une façon un peu originale de traiter l'argent, de traiter la monnaie, puisque ce sont des pièces en or et en argent que l'on peut conserver, que l'on peut s'offrir, qui auront cette année une valeur de 10 euros, de 25 euros pour l'argent et de 250 euros en or.
Un peu plus que la dernière fois.
Les valeurs ont un petit peu augmenté, mais ces pièces, elles conservent complètement leur valeur puisqu'elles ont cours légal et en même temps, elles peuvent varier en fonction du prix du métal et c'est un beau cadeau que les gens peuvent se faire dans les familles.
C'est même un bel investissement en fait.
C'est un bel investissement.
C'est ce qui s'est passé l'année dernière, non?
Les gens ont beaucoup acheté ces pièces et elles ont ensuite pris de la valeur, par exemple sur eBay, parce qu'elles s'échangent sur des sites ou entre collectionneurs. La valeur du métal varie également et peut faire augmenter augmenter le prix de ses pièces. Et donc, c'est une façon un petit peu, je dirais, ludique d'appréhender l'argent. On est en temps de crise, il faut avoir aussi des sujets un petit peu de plaisir. Et pour apprendre à un enfant, par exemple, la valeur de l'argent, la valeur de l'épargne, je trouve que c'est une très bonne idée de lui offrir une pièce de 10 euros ou de 5 euros en argent et de l'inciter à la conserver. Comme ça, il apprend un petit peu la valeur de l'argent.
Alors, on a beaucoup parlé à l'occasion du sommet de G20 de l'euro, du rôle des monnaies, etc. Vous avez un aspect un peu différent, puisque plus matériel, puisque vous frappez monnaies, même, parce que vous ne frappez pas que l'euro. Mais si, par exemple, d'autres pays, comme le demande encore ce matin le FMI, d'autres pays de l'Europe de l'Est intègrent l'euro, pour vous, ça fait encore un peu plus de business ou pas?
Ça fait un marché potentiel, effectivement, puisque nous fabriquons les euros pour la France, et en même temps, nous fabriquons les euros pour d'autres pays, alors qu'ils soient d'ailleurs dans la zone euro. On a fabriqué récemment pour le Luxembourg, ou pour la Grèce, ou pour Malte, donc des petits pays qui n'ont pas d'usine chez eux. Et nous fabriquons aussi pour des pays en dehors de la zone euro. Par exemple, en Asie, nous avons des marchés au Bangladesh, par exemple. Et donc, on a une vocation à fabriquer des pièces pour la plupart des pays du monde dans le cadre d'un marché qui est extrêmement compétitif parce que le prix du métal augmente. Évidemment qu'il faut être donc extrêmement compétitif dans les prix que l'on propose. Mais c'est une activité comme une autre et qui peut être rentable, comme on le démontre en 2008. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est devenu bénéficiaire.
Alors justement, 2008, vous aviez, lorsque vous avez pris les rênes de cette institution, et maintenant, on peut dire de cet établissement, vous aviez fixé un cap 2012, avec objectif donc que l'entreprise devienne rentable. Donc c'est le cas. Comment est-ce que vous avez fait? C'est quoi les grands changements en fait que vous avez
Il y a deux changements principaux. Le premier, c'est que on a fait un saut de productivité extrêmement important à travers une réduction d'effectifs. Alors cette réduction d'effectifs, elle s'est faite dans des conditions, je dirais, très organisées. Ça a été des départs volontaires, mais ça représentait quand même un quart des effectifs, ce qui est considérable. Et donc, pour une entreprise comme la nôtre, qui est de taille moyenne, le fait de passer de 650 salariés en 2007 à 500 aujourd'hui, ça a représenté un choc considérable. Il a fallu se réorganiser et ça a été un travail très très dur pour toutes les équipes, aussi bien à Paris qu'à Pessac. Et donc ça, c'est la première source d'économie qui fait qu'on a baissé nos charges. Et puis de l'autre côté, on a augmenté nos recettes à travers différentes voies, dont les fameuses pièces, les euros, or et argent dont on parlait tout à l'heure, qui nous ont fait donc des nouveaux collectionneurs, des nouveaux acheteurs qui s'intéressent à nos pièces de collection. Sans parler de l'État qui lui aussi a augmenté un peu sa commande d'euros courants pour le porte-monnaie des Français. Et donc tout ça fait que notre chiffre d'affaires a augmenté de 20% et en même temps que nos charges ont baissé. Et donc, on est passé de 5 ans de déficit à une année relativement bénéficiaire, puisque 13 millions d'euros ont été engrangés en 2008, ce qui fait 10% de marge nette, ce qui est une très bonne performance.
Oui, c'est une bonne rentabilité, surtout en ce moment. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui aimeraient bien avoir cette rentabilité.
Absolument.
Christophe Beau, je peux vous le confirmer. Juste, chiffre d'affaires, vous pouvez nous le ventiler. Vous êtes déjà venu plusieurs fois nous parler de la monnaie de Paris, mais nous rappeler un peu les grands...
En deux mots, la moitié est à peu près faite pour l'État. Donc les euros que les Français ont dans leur porte-monnaie et qui sont donc achetés par l'État à la monnaie de Paris et ensuite l'État les réinjecte dans le circuit économique. Donc ça représente une grosse cinquantaine de millions d'euros. Le reste, ça se compose à la fois des pièces d'euros ou des pièces de courante que nous fabriquons pour d'autres pays que la France. Et enfin, la dernière partie, c'est toute la production d'art qui se fait notamment à Paris et qui sont donc les pièces de collection, les décorations officielles, les médailles commémoratives et un ensemble d'objets d'art qui sont absolument fabuleux en métal précieux.
Oui. Est-ce qu'on a beaucoup parlé d'inflation au moment du passage à l'euro? Est-ce qu'il y a eu une inflation de pièces? Une question que je ne vous ai jamais posée, Christophe Beau, mais est-ce qu'il y avait plus, il y a plus d'euros frappés du sou français que de francs avant?
Non, ça se tient à peu près. Chaque année, on réinjecte dans l'économie un certain nombre de pièces pour faire face aux pièces qui disparaissent. Soit parce que les gens, sans s'en rendre compte, les thésaurisent chez eux, soit parce qu'ils les perdent. Bon. Mais on ne peut pas qualifier ça d'augmentation de la masse monétaire. Puisque
cette trappe à liquidité un peu particulière, ça représente combien?
Une trappe, mais qui est minuscule, qui se compte en quelques dizaines de millions d'euros, si on parle cette fois-ci en valeur faciale, des pièces que l'on fabrique. Et c'est absolument une goutte d'eau par rapport à la masse monétaire globale qui circule dans l'économie, que ce soit les billets, la monnaie fiduciaire, les comptes en banque, etc., les prêts entre entreprises ou entre banques et entreprises. Donc, tout ça, évidemment, est une toute petite portion et la monnaie métallique ne contribue que très très faiblement à la masse monétaire globale.
Christophe, bon, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants.
Le 12-15, jusqu'à 15h, Edwige Chevrillon sur BFM Radio.
Retour dans le 12-15 avec mon invité Christophe Beau, le président de la Monnaie de Paris. Vous disiez donc les comptes 2008 très très bons, hein, chiffre d'affaires en hausse de 20% avec un résultat net positif pour la première fois depuis 5 ans. Vous le disiez aussi, le coût pour les salariés a été dur, hein, parce que beaucoup de suppressions d'emplois, passé de 600 à combien, à 550 ?
C'est ça, de 650 à 500.
Oui, voilà, c'est l'inverse, 650, donc ça fait 150 salariés en moins. Est-ce que du coup, est-ce qu'ils vont participer un peu à ces fruits bénéfiques ?
Oui, tout à fait. Déjà, au mois de janvier, nous avons versé une prime exceptionnelle pour tenir compte des bons résultats 2008. Et nous sommes en train de négocier avec les organisations syndicales un accord d'intéressement pour mettre cela en place en 2009, de manière à ce que les salariés aient le juste retour des fruits de leur travail. Il y a effectivement un très gros saut de productivité qui est fait par l'entreprise. Et les salariés se sont vraiment retroussé les manches. Je pense qu'il est normal, quand l'entreprise gagne de l'argent, qu'ils en reçoivent une partie des profits.
Ouais. Alors, il y a eu ça, on a regardé les côtés positifs, même très positif. Il y a quand même un effet un petit peu plus négatif, c'est le résultat de la bisbille qui vous oppose à une autre vieille dame, en l'occurrence l'Institut de France et l'Académie française, puisqu'ils vous ont piqué un bout de parcelle. Alors je sais que ça a donné lieu à beaucoup de psychodrames, mais notamment ça a un impact financier assez lourd sur vos comptes.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est un bout de parcelle qui bascule, qui vous quitte, mais c'est au cœur de Paris. Hein, donc
c'est
évidemment,
un terrain au cœur de Paris où nous avons des ateliers depuis 200 ans dessus. Bon, les pouvoirs publics ont décidé d'attribuer ce terrain à l'Académie française, enfin à l'Institut de France en général. Ça a effectivement un impact.
Un arbitrage que vous contestez toujours, hein, du reste. Oui.
Je ne le conteste plus. Ouais. Je me suis battu contre. Maintenant, il y a un moment donné où il faut tourner la page. Donc, c'est ce que nous faisons à la Monnaie de Paris. Mais il y a effectivement un impact que nous constatons sur nos comptes en 2008, qui est une diminution de notre actif de 27 millions d'euros. Donc, ça n'est pas une paille quand même pour une entreprise qui ne fait que 125 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, il faut le constater dans les comptes. Moi, je le déplore, je le regrette. Je le déplore surtout que l'entreprise a fait d'énormes efforts et continue d'en faire pour se redresser. Je ne suis pas sûr que c'était la bonne façon de remercier l'entreprise pour ses efforts que d'un trait de plume ainsi supprimer
sans
cette
faire
parcelle.
De mauvais jeu de mots, parce qu'en l'occurrence il s'agit de l'Académie française.
Voilà, mais bon, les choses sont faites, il ne faut pas maintenant polémiquer, et il faut que l'entreprise tourne la page et que nous réorganisions nos ateliers parisiens de manière à tenir compte de cette disparition.
Et oui, justement, vous avez tout un projet autour de ce siège parisien qui est quand même très prestigieux.
Alors voilà, c'est
pour
ça
ceux qui ne connaissent pas, c'est à côté du Pont Neuf à Paris, donc c'est vraiment au cœur du Paris historique.
Oui, ça c'est un projet auquel je tiens beaucoup. Nous avons des ateliers qui sont extraordinairement intéressants pour le public et qui sont pourtant très peu connus. Et notre idée, c'est de les rendre accessibles au public, un petit peu comme sur l'île de Murano, les visiteurs viennent voir le travail du verre, voilà, à Venise, à côté de Venise, ils viennent voir les souffleurs de verre. Et bien notre idée, c'est de faire en quelque sorte un Murano du métal, puisque nous avons là à Paris la chance d'avoir les derniers ateliers d'art en plein cœur de la capitale où on travaille le métal, avec de la gravure, de l'estampage, de la fonderie, de l'émaillage, tous les métiers qui tournent autour du métal. C'est absolument magnifique à voir. Tous ceux qui viennent le voir en sont en général enchantés. Il y a d'ailleurs eu une émission récente des Racines et des Ailes qui a été consacrée à la Monnaie de Paris, et on voit bien tout le potentiel qu'il y a à la fois pour des touristes étrangers, mais aussi pour des Parisiens ou pour des jeunes ou des moins jeunes. Je crois qu'aujourd'hui il y a une demande du public pour des activités culturelles qui soient à la fois pédagogiques, enrichissantes. Les gens aujourd'hui ne vont plus dans des musées juste pour déambuler au milieu des œuvres d'art. Ils ont besoin d'apprendre quelque chose, de comprendre des processus, et là nous avons de quoi leur montrer un véritable processus de fabrication du métal avec des techniques ancestrales, et quelque chose qui, au bout, est tout à fait spectaculaire et qui permet d'apprendre des choses tout à fait passionnantes. Ouais. Donc ce projet ouvrira en 2011. Il est entré dans sa phase concrète, puisque nous avons fait beaucoup d'études préalables, mais aujourd'hui nous avons lancé un appel à candidature pour des architectes. Nous sommes en train de finaliser le jury qui va décider de ce choix d'architecte. Donc ce sera fait autour du mois de juin à peu près. Nous aurons des personnalités très importantes dans ce jury, je suis content de le dire déjà par avance, avec des personnalités parisiennes ou autres qui vont disons se pencher,
comme
par exemple Catherine Dumas, qui est sénatrice de Paris, comme Hugues Gall, qui est un ancien directeur très emblématique de l'Opéra de Paris. Nous espérons avoir un président de jury qui est une personnalité extrêmement connue de tous les Français. Et ce sera une façon pour eux de se pencher sur le berceau de ce futur projet qui sera tout à fait attractif, comme vous l'avez dit, en face du Louvre, en face du Pont Neuf.
Dès lors que vous devenez quasiment une entreprise, hein, parce qu'il y a encore la question du bilan, je crois qu'il n'est pas encore complètement clarifié, est-ce qu'on peut imaginer une consolidation de ce secteur-là avec vos homologues européens ?
C'est probable. C'est difficile de dire à quel horizon, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes de frappe monétaire en Europe. En France, il y en a une, c'est la monnaie de Paris. En Allemagne, par exemple, il y en a cinq qui dépendent des lenders allemands. Et nous pensons qu'à un horizon, alors qui est difficile de prévoir, mais à un certain horizon, il y aura un mouvement de consolidation dans ce secteur. C'est tout l'enjeu d'ailleurs de la restructuration de la monnaie de Paris. C'est d'être en situation, le moment venu, de pouvoir être du côté des acquéreurs éventuellement et non pas du côté des cibles. Mmh. Donc tout ça est évidemment très lointain à ce stade, mais il faut s'y préparer et c'est pour ça que la monnaie de Paris a fait cette mue absolument très très vigoureuse pour passer d'une entreprise qui perdait de l'argent à une entreprise qui aujourd'hui en gagne et qui est en situation d'être un acteur compétitif sur le marché.
Très très rapidement, perspective 2009.
Elle est bonne puisque nous prévoyons encore une petite hausse du chiffre d'affaires, moins spectaculaire qu'en 2008, mais nous sommes plutôt dans une phase, je dirais, d'atterrissage par rapport à notre plan stratégique. Et nous prévoyons également un bénéfice du même ordre de grandeur qu'en 2008.
Merci beaucoup. C'était Christophe Beau. Christophe Beau était mon invité. Christophe Beau, je rappelle que vous êtes le président de la Monnaie de Paris. Merci beaucoup. Merci.